Je suis en compagnie de Pierre Madelin. Nous parlons de votre nouveau livre « La Terre, les corps, la mort, essai sur la condition terrestre » qui paraît aux éditions Dehors. J'aimerais que nous commencions par le titre « La Terre, les corps, la mort, essai sur la condition terrestre ». Le terme « mort » peut surprendre et en effet, vous expliquez en introduction que la question de la mort est rarement abordée dans la pensée écologiste.
Oui, effectivement. Alors, la question de la mort est rarement abordée ou alors sous forme plus indirecte. C'est-à-dire qu'on parle évidemment de la mort occasionnée par les ravages du capitalisme, les ravages de la société industrielle. Par contre, on associe généralement assez peu, si ce n'est sous des formes un peu fragmentaires, un peu intuitives chez certains auteurs. On associe assez peu la question du rapport à la mort et la question de la destruction des conditions d'habitabilité de la Terre. Donc moi, c'est un petit peu ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est me saisir en fait de cette articulation en partant justement de l'intuition qui était à la base vraiment une intuition qui est provenue à la fois de certaines lectures et de certains événements qui ont eu lieu dans ma vie. Et cette intuition est la suivante, c'est que, en quelque sorte, le déni de notre condition terrestre, dont témoigne, on va dire, notre modernité industrielle et capitaliste, et le déni de notre condition mortelle, ou ce que j'appelle autrement parfois le déni de la finitude écologique et le déni de la finitude anthropologique, ont un lien, sont liés, dans l'histoire des idées religieuses et métaphysiques, au moins de ce qu'on appelle l'Occident.
Je vais vous lire longuement dans votre introduction, Pierre Madelin. C'est en amont et non en aval de la crise écologique que mon regard entend se porter. Existe-t-il un lien entre notre rapport à la mort, les représentations que nous formons de celle-ci et la destruction des conditions de la vie sur Terre? Y a-t-il une relation entre la façon dont nous concevons notre propre finitude et la façon dont nous concevons les limites de la biosphère, de ses cycles et de ses ressources? Autrement dit, la difficulté à accepter la mort, qui prend à l'époque moderne la forme d'un véritable déni, n'est-elle pas l'une des sources de l'incapacité dans laquelle nous sommes aujourd'hui d'habiter notre foyer, la Terre, sans la détruire? La relation entre refus de la mort et mépris du terrestre, notamment dans l'histoire des idées occidentales, semble en effet si évidente pour quiconque en a pris conscience qu'il est frappant de n'en trouver trace nulle part. J'aimerais que vous nous expliquiez cette dernière phrase, de n'en trouver trace nulle part.
Alors ça renvoie un petit peu à ce que j'ai dit, peut-être que c'est un petit peu exagéré de dire qu'on n'en trouve trace nulle part. Effectivement, il y a quand même eu, avant mon livre, je pense notamment à un petit livre qui était paru il y a quelques années aux éditions de La Lenteur de Jacques Luzy, au Rendez-vous des Mortels, qui explorait des intuitions assez proches des miennes. Et puis on peut trouver des intuitions similaires dans des ouvrages de Geneviève Azam, dans des ouvrages, un ouvrage récent d'un théoricien de la décroissance qui s'appelle Giorgos Kallis. Et puis évidemment dans les ouvrages de la philosophe australienne Val Plumwood, qui a été un petit peu la matrice, ses ouvrages et sa pensée qui ont été un peu la matrice de mon propre livre, de ma propre réflexion dans ce livre et auprès de laquelle j'ai donc une dette importante. Néanmoins, il est vrai que le lien est quand même assez peu posé et assez peu explicité, et même lorsqu'il apparaît chez ses auteurs et chez Val Plumwood, il ne fait pas forcément l'objet de développement aussi important qu'on aurait pu s'y attendre. Et donc en quelque sorte, moi, l'objet de mon livre, ça a été de me saisir de ces intuitions un petit peu éparpillées et insuffisamment développées à mon goût, pour justement essayer de les développer et de tirer les fils qui me semblaient se révéler à moi à travers ces quelques fragments.
Alors, avant d'argumenter dans votre livre, j'aimerais que vous nous parliez de Val Plumwood, parce que c'est une penseuse assez peu connue encore en France. Vous avez traduit en 2021 aux éditions Wild Project son livre « Dans l'œil du crocodile, l'humanité comme proie ». Elle est assez peu connue encore. Ce livre, sans doute, est sorti en 2021, le temps que tout le monde le lise. Pouvez-vous nous en parler, puisque vous en êtes le traducteur?
Oui, bien sûr, ça me fait toujours très plaisir de parler de Val Plumwood. Elle a été vraiment une philosophe, une théoricienne charnière dans ma vie, dans mon itinéraire intellectuel. Je pense qu'elle a fait partie de ces auteurs, de ces autrices comme on n'en rencontre pas beaucoup dans une vie aussi, parce que voilà, je l'ai découverte à un moment où probablement la réception de sa pensée était particulièrement importante pour moi. Parfois, l'impact d'un auteur sur nous est lié au moment où on le découvre, évidemment. Elle n'est effectivement pas encore très connue en France, mais j'espère que ça changera. En tout cas, elle est appréciée, elle est même admirée en général dans les cercles de la philosophie de l'écologie. Pour le moment, un seul livre d'elle a effectivement été publié, donc L'œil du crocodile, que j'ai traduit. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a deux autres qui sont ses ouvrages les plus importants, que j'ai également traduits, qui ne sont pas encore publiés, mais la traduction est achevée. Les droits sont acquis, donc ces deux opus magnum, on va dire, vont être publiés l'année prochaine ou au cours des années à venir, l'un chez Dehors et l'autre chez Wild Project. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va permettre, j'espère en tout cas, de la transformer en une figure incontournable de la pensée écologiste dans les débats de notre propre pays. Maintenant, pour la présenter un petit peu plus en détail, elle c'était une philosophe australienne. Elle est morte il y a maintenant une bonne dizaine d'années. C'est pour moi vraiment une des plus grandes, peut-être la plus grande philosophe de l'écologie du monde anglo-saxon du XXe siècle. Elle est très connue parce qu'elle a été, en fait, dans sa vie, on va dire, elle a vécu une anecdote croustillante, si je puis dire, je ne sais pas si le jeu de mots est adéquat, mais bon, elle a survécu à une attaque de crocodile. Et donc ça, évidemment, pour une philosophe de l'écologie, ça a créé un mythe. Et elle a, d'autant plus qu'elle a tiré de cette expérience un certain nombre d'essais. Qui sont au cœur de l'essai, enfin du livre que j'ai traduit et qui est paru l'an passé chez Wild Project. Mais par-delà cette dimension, on va dire, anecdotique ou biographique, elle a vraiment été une très 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 grande théoricienne, extrêmement rigoureuse de la philosophie de l'écologie. Et elle s'est notamment attachée à dégager ce qu'elle appelle la logique du dualisme, qu'elle voit à l'œuvre dans la pensée occidentale. Alors le dualisme, la critique du dualisme, c'est devenu un petit peu un lieu commun, on va dire, des pensées critiques. Mais je dirais que ce qui singularise Velplemouth, c'est qu'elle elle va vraiment théoriser le dualisme de façon extrêmement rigoureuse. Elle va essayer d'en détacher les caractéristiques principales en s'appuyant notamment sur sa formation de logicienne.
Donc voici pour le soubassement de votre livre, Pierre Madelin. Entrons maintenant dans votre livre. Par vos recherches, vous constatez que le déni de la mort est un invariant anthropologique. Donc là, on va essayer de faire la généalogie de cela. Pouvez-vous nous expliquer ?
Alors, effectivement, déjà peut-être dire pourquoi j'en suis venu à m'interroger là-dessus. Quand j'ai eu cette intuition que j'exposais au tout début de l'entretien d'un lien, on va dire, historique entre déni de la mort et déni de la terre, ou mépris de notre condition terrestre, je me suis heurté, on va dire, à une difficulté conceptuelle qui était assez importante et même assez considérable. C'est que, en lisant des anthropologues, en lisant des historiens, je me suis rendu compte que le déni de la mort était universellement partagé, était présent dans toutes ou quasiment toutes les sociétés humaines. Ça, c'est pas une thèse que je défends en propre, c'est la thèse que j'ai trouvée chez tous les anthropologues, que j'ai lus en tout cas, qui ont travaillé sur ce sujet, pour les nommer principalement, car c'est sur eux que je me suis appuyé beaucoup. Edgar Morin, qui a été le premier, Louis-Vincent Thomas par la suite, et puis le dernier, Maurice Godelier. Mais on peut trouver des thèses similaires chez des anthropologues anglo-saxons, etc. Donc évidemment, quand j'ai découvert ça, bon, je le savais un petit peu déjà, la question que je me suis posée, c'est bon, mais alors, si toutes les sociétés sont dans une forme ou une autre de déni de la mort, comment expliquer qu'elles ne partagent pas toutes pour autant ce déni de la condition terrestre que je situe, moi, plutôt en Occident, enfin, l'articulation en tout cas entre ces deux dénis. Donc, je n'ai pas forcément trouvé une réponse parfaite ou totale à cette question, parce que c'est une question qui est quand même assez massive, on va dire, d'un point de vue anthropologique. Moi, ce que j'identifie, c'est que dans les sociétés avant une certaine période, que j'appelle l'âge axial, dont on reparlera peut-être après, il y a effectivement un déni de la mort, mais ce déni de la mort qui part du principe que quand une personne meurt, dans ces sociétés, il y a une acceptation de la mort dans sa réalité physique, c'est-à-dire que quand une personne meurt, on reconnaît qu'elle est morte, qu'elle va pourrir, qu'elle va disparaître dans sa forme présente, dans sa corporéité présente. Mais on postule néanmoins dans cette personne l'existence d'entités, souvent des entités animiques, qui vont se recomposer et se recycler par-delà la mort, par-delà la disparition de ce corps. Et s'il y a quelque chose qui survit, dans une dimension de la personne qui n'est pas directement perceptible par les sens, c'est-à-dire des éléments animiques, il faut aussi postuler l'existence d'un ailleurs qui n'est pas directement visible, où ces éléments vont se reconstituer. Donc on a déjà dans le sillage du déni de la mort dans la plupart des sociétés humaines, une polarisation du monde entre des éléments animiques et des éléments somatiques, entre un ici et un ailleurs, entre un ici-bas et un au-delà. Sauf que cette polarisation, elle ne prend pas des formes dualistes parce qu'elle n'est pas hiérarchique. Elle n'est pas hiérarchique et dans la mesure où elle n'est pas hiérarchique, elle n'engage pas une dévalorisation de notre condition corporelle et de notre condition terrestre. Donc c'est un petit peu la réponse à laquelle que j'ai apportée à la question de savoir pourquoi dans ces sociétés-là il n'y avait pas d'articulation entre un déni de la mort bien présent et un déni de la terre.
Oui, j'aimerais qu'on continue sur cette généalogie de ce déni de la mort et de cet invariant anthropologique, parce qu'il me semble essentiel pour après comprendre tout ce qui va se passer dans votre livre. Vous écrivez « Une chose est sûre cependant, c'est pendant l'âge axial que le déni de la mort et le déni de la condition terrestre se sont définitivement articulés l'un à l'autre, nouant une alliance dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. » C'est pendant l'âge axial que les êtres humains ont commencé à se définir systématiquement comme des êtres dont l'essence et l'identité profonde sont non seulement indestructibles, mais plus encore étrangères à la Terre. Parlez-nous de cet âge axial.
Alors l'âge axial, c'est un concept qui n'est pas si connu que ça en France. Et de fait, il n'a pas été énormément travaillé par les historiens des religions en France. C'est un concept qui est controversé, mais moi qui m'a semblé quand même intéressant et qui est défendu aussi quand même par des historiens des religions, tout ce qui est de plus sérieux et encore aujourd'hui. Enfin, il a été fondé ce concept par Karl Jaspers, je crois dans l'entre-deux-guerres ou au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avant d'être repris par Lewis Mumford et puis ensuite par toute une série d'historiens des religions américains sur lesquels je me suis un petit peu appuyé dans mon livre. En gros, ce concept d'âge axial désigne une période qui s'étend, on va dire autour du 8e, 7e, 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. En en ayant une conception très large, on pourrait pousser cette période jusqu'à l'avènement de l'islam, qui est un petit peu les derniers feux de l'âge axial, si on pourrait dire. Et en fait, elle désigne cette période où, dans un certain nombre de civilisations, dans un certain nombre de sociétés, pas forcément reliées entre elles encore à l'époque de façon massive par des échanges commerciaux ou intellectuels, en Chine, dans le sous-continent indien, en Grèce, dans le nord de l'Afrique, dans ce qu'on appellerait le Moyen-Orient aujourd'hui, eh bien vont naître pour la première fois des religions et des philosophies qui vont avoir un contenu ou une ambition universaliste, en ce sens qu'elles ne vont pas seulement être l'expression de rapports sociaux ou d'institutions sociales, on va dire, endogènes ou endogames, mais qu'elles vont avoir, une dimension normative à l'égard de tout être humain ou de toute société comme telle. En tout cas, qu'elles vont pouvoir accueillir en leur sein des êtres humains issus de différentes sociétés. Donc c'est en Chine l'avènement du confucianisme, du taoïsme, dans le sous-continent indien, on va dire, la cristallisation sous ses formes plus récentes de l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme qui émerge petit à petit, l'affirmation progressive des monothéismes, le judaïsme d'abord évidemment, le christianisme plus tardivement et l'islam encore plus tardivement, mais qui s'inscrivent dans cette dynamique de l'âge axial. Et puis évidemment les différentes philosophies, on va dire gréco-latines, enfin, en l'occurrence plutôt grecques à ce moment-là évidemment. Les différentes écoles platoniciennes, épicuriennes, stoïciennes, etc. Et alors cet âge axial, les contenus de ces philosophies sont très différents. Je veux dire, il y a énormément de différences entre ces différentes traditions religieuses et philosophiques. On ne pourrait absolument pas en tirer des caractéristiques communes sur tous les plans de la pensée. Mais à l'exception peut-être de la philosophie chinoise, du taoïsme notamment, une des caractéristiques principales et un des dénominateurs communs de toutes ces traditions de pensée, c'est qu'elles vont toutes exprimer, ou presque toutes exprimer, un profond mépris, une profonde dévalorisation de notre condition d'être corporel et terrestre. Et quand on creuse un petit peu, j'imagine que c'est ce dont on va parler par la suite, eh bien, on voit qu'en fait, ce mépris du corps, ce mépris de la terre, qui est vraiment exprimé clairement, hein, notamment chez Platon, eh bien, il est lié toujours à une volonté, à un fantasme d'échapper à la mort, de devenir immortel, ou alors de brancher en quelque sorte une part immortelle de soi sur une transcendance qui échappe au temps et à la mort.
Oui, je voudrais vraiment qu'on continue un peu sur ces prémices, parce que c'est ça qui fonde vraiment après tout l'enjeu de votre raisonnement. Vous écrivez, ça c'est pour résumer du coup ce que vous venez d'expliquer, à tous les niveaux, ontologique, cosmologique, anthropologique, eschatologique, le platonisme, le christianisme et le gnosticisme diffèrent. Pourtant, au-delà de la diversité de leurs constructions métaphysiques et théologiques, une obsession commune se manifeste chez les uns et chez les autres, triompher de la mort et de la condition terrestre par-delà la terre, devenir indestructible. Et alors, votre apport, Pierre Madelin, est celui-ci, c'est que la quête de l'immortalité n'est pas conciliable avec la valorisation de notre condition d'être terrestre. C'est ceci votre thèse.
Oui, c'est effectivement la thèse centrale du livre. Alors pourquoi ? Pourquoi dans ces systèmes de pensée, la quête de l'immortalité n'est pas conciliable effectivement avec la valorisation du séjour terrestre ? Eh bien parce que le séjour terrestre, tout simplement, qui est aussi le séjour corporel, en fait, on pourrait parler d'un monde corporel terrestre, en fait. Nous sommes terrestres parce que nous sommes corporels et nous sommes corporels parce que nous sommes terrestres. Eh bien, le monde où on meurt. Il est le monde où nous allons mourir, nous, en tant qu'individus, et il est le monde où nous allons voir mourir les êtres que nous aimons. Et effectivement, dans les systèmes de pensée platoniciens, chrétiens, gnostiques, revient toujours cette idée qu'il n'est pas possible d'aimer, il n'est pas possible de considérer comme un foyer un monde dans lequel nous allons mourir, car celui-ci est frappé du sceau de la vieillesse, de la maladie, de la souffrance, de la mort et du pourrissement des chairs. Et là, il y a pas mal de citations, effectivement, dans mon livre à l'appui, où je montre que ce lien apparaît assez clairement. Je pense me souvenir que c'est saint Paul, hein, dans le passage où il dit que nous devons devenir indestructibles, qui dit que voilà, il faut cesser de revêtir le vêtement terrestre pour revêtir le vêtement céleste. C'est Platon qui dit que nous sommes une plante du ciel et non de la terre. C'est les gnostiques qui sont, eux, encore plus radicaux dans leur haine, presque on pourrait dire, de tout ce qui est terrestre et de tout ce qui est corporel. Et il y a vraiment cette idée que nous ne pourrons devenir pleinement ce que nous sommes qu'à condition de libérer notre âme ou de libérer un potentiel en nous qui est immortel en l'arrachant, en le libérant, en le délivrant de sa prison terrestre. Et c'est ça qui va forger, on va dire, ce que moi j'appelle le mythe de l'indestructibilité, qui traverse après, d'après moi, toute la philosophie occidentale. C'est-à-dire que l'être humain, en son essence, en son fondement le plus fondamental, eh bien, n'est pas un mortel, n'est pas un être destiné à terminer totalement sa carrière au moment où son corps le lâche, on va dire.
Et vous en arrivez alors, en tirant les conséquences de cela, en tirant les conséquences de sous cette généalogie historique que vous avez forgée dans la première partie de votre livre, vous en arrivez à ceci. Il ne semble pas exagéré de dire que l'aptitude à ne pas mourir constitue le fondement ultime de la différenciation hiérarchique entre humain et non-humain qui caractérise l'anthropocentrisme. Parce qu'on va en arriver justement à cette question d'anthropocentrisme, et on va en arriver à la question de l'anthropocène, de la catastrophe climatique et écologique. Tout l'enjeu de votre livre, il se trouve là, et c'est le titre, « Essai sur la condition terrestre ». Et quand on parle de terrestre, actuellement, on pense à Bruno Latour, on pense à la revue Terrestre, c'est-à-dire à un engagement écologique fort face à la catastrophe climatique et écologique.
Oui, effectivement, c'est là où il faut commencer à articuler plus précisément peut-être avec la question écologique. Alors moi, ce que j'essaie de montrer, effectivement, en parlant de ce mythe de l'indestructibilité, de ce sujet indestructible qui s'impose, d'après moi, dans l'histoire des idées occidentales, c'est qu'il a partie liée à une question à un enjeu de pouvoir, à un enjeu de domination. C'est-à-dire que l'articulation du déni de la mort et du déni de la terre n'a pas seulement une dimension qu'on pourrait appeler métaphysico-existentielle. On va dire que cette dimension métaphysico-existentielle se branche sur une dimension politique au sens large, c'est-à-dire sur la question du pouvoir et de la domination. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là ? Eh bien simplement qu'en fait, l'être humain, en s'attribuant une capacité d'une manière ou d'une autre, dans des systèmes philosophiques et théologiques, certes diverses, mais reliées sur ce point, une capacité à transcender la mort, eh bien va s'attribuer aussi une aptitude, une qualité qui le différencie du reste des vivants. Qui le différencie des non-humains. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir, à travers l'idée que l'être humain peut être délivré et s'affranchir de la mort, eh bien l'idée qu'en fait ça fonde sa supériorité sur le reste du monde. Et ça, effectivement, c'est la caractéristique principale de l'anthropocentrisme. Et de ce point de vue-là, l'anthropocentrisme se branche sur cette logique de déni de la mort. Et pour bien illustrer ce point, je voudrais rappeler quelque chose dont je parle pas mal dans mon livre, enfin un auteur sur lequel je m'appuie à ce niveau-là, qui est Louis-Vincent Thomas. Louis-Vincent Thomas, alors qu'il ne s'intéressait pas du tout à l'écologie, mais qui avait dégagé, on va dire, une structure tripartite qu'il avait identifiée dans de très nombreuses sociétés humaines dans le rapport entre mort et pouvoir. Il disait qu'il y a un lien triple dans le rapport entre mort et pouvoir. Pouvoir de la mort, pouvoir par la mort et pouvoir sur la mort. Qu'est-ce qu'il entendait par là ? Tout d'abord, pouvoir de la mort au sens où, évidemment, la mort a un pouvoir. La mort règne là où, quelque part, nous voudrions régner. Elle est, comme disait Hegel, je crois, le maître absolu. Elle est ce qui défie, y compris les plus puissants, qui, même s'ils ont 1000 femmes dans leur harem et 100 000 esclaves autour d'eux, eh bien, sont dominés par la mort. Donc, la mort a un pouvoir, c'est le pouvoir de la mort. Mais face à ce pouvoir de la mort, eh bien, la tentation est grande pour ceux qui ont du pouvoir, eh bien, de s'approprier ce pouvoir de la mort pour le transformer en pouvoir par la mort, c'est-à-dire pour exercer leur pouvoir en administrant la mort à ceux sur lesquels ils exercent ce pouvoir. Et enfin, le pouvoir sur la mort, parce que historiquement, dans de très nombreuses sociétés, eh bien, le souverain, le maître, le roi, le chef, eh bien, va s'attribuer plus que d'autres une capacité à survivre à sa propre mort. Et c'est exactement ce schéma tripartite qu'on va retrouver dans l'anthropocentrisme, en fait. C'est-à-dire que l'être humain de l'anthropocentrisme, l'être humain qui est au sommet de cette hiérarchie socio-écologique qui caractérise l'anthropocentrisme, eh bien, il est outré, si je puis dire, par ce pouvoir de la mort, qui est non seulement une source d'angoisse existentielle, mais aussi une source de défi à l'affirmation de son propre pouvoir et de sa propre différence. Et il essaie de retourner ce pouvoir de la mort en s'octroyant un pouvoir par la mort sur le reste des vivants qu'il domine et en s'imaginant un pouvoir sur la mort, c'est-à-dire en s'imaginant qu'il est appelé, lui, à la différence des autres vivants, eh bien, à survivre à sa propre mort en rejoignant le ciel ou en branchant son esprit, son logos, sur une entité transcendante dont il est, parmi les vivants, le seul dépositaire.
Et alors, par vos recherches historiques, vous en arrivez au tournant moderne. Vous en arrivez au tournant moderne et vous constatez ceci. Si l'on entend par dualisme la tendance à identifier chez l'être humain une essence spirituelle étrangère au monde et à fonder sur cette différenciation première une hiérarchisation du monde au sein de laquelle un certain type d'être humain occupe systématiquement la place la plus éminente, alors il va de soi, nous l'avons vu, que ni le dualisme ni l'anthropocentrisme qui en découle ne sont des créations modernes. J'aimerais que vous nous expliquiez, parce que cela va à contresens de souvent ce que nous pouvons penser que la modernité a introduit cela.
Alors là, effectivement, pour moi, à ce niveau-là, il y a une généalogie qui est beaucoup plus longue à faire, encore une fois. Et c'est, alors, encore une fois, quelque chose que j'esquisse dans mon livre, même s'il faudrait, comme je le dis moi-même, il faudrait des bibliothèques entières, quelque part, pour explorer dans le détail tout ça, dans l'histoire des idées religieuses et philosophiques. Mais la dévalorisation du monde terrestre, comme je l'ai déjà dit à la réponse à une autre question, clairement, moi, ça me paraît très clair, elle commence massivement avec l'âge axial. Et on va la retrouver aussi dans les grandes philosophies et les grandes religions du sous-continent indien. Clairement, l'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, en tout cas sous sa forme originelle, contrairement à ce qu'on a pu dire parfois, sont des religions qui ne sont pas du tout compatibles avec une valorisation de la condition terrestre. Ensuite, l'anthropocentrisme, à proprement parler, dans l'histoire des idées occidentales, qui est ce sur quoi je me focalise, effectivement, il est beaucoup plus ancien que la modernité. Et ça, alors, je pense quand même que ça a été souligné par pas mal de philosophes de l'écologie. C'est peut-être pas ce qui revient aujourd'hui le plus souvent dans les débats où on va penser les origines de l'anthropocentrisme plutôt avec la modernité cartésienne, mais quand même, il y a beaucoup de travaux, notamment les travaux de Lynn Wright, les fameux travaux de Lynn Wright sur les origines de la crise écologique, où il pointait déjà la responsabilité, en tout cas dans la sphère des idées, du christianisme et du livre de la Genèse, dans la Genèse précisément de l'anthropocentrisme. De la même façon qu'il y a pas mal de philosophes de l'écologie, je pense à Callicott, qui ont également pointé du doigt l'anthropocentrisme des philosophies grecques qui sont toutes fondées sur l'idée d'une scala naturae, on va dire, même si le terme n'est pas présent chez eux, mais l'idée qu'il y a quand même une échelle et une hiérarchie socio-cosmique au sommet de laquelle l'être humain est à l'intérieur de l'humanité, pas n'importe quel être humain, souvent les esclaves, les maîtres, pardon, les maîtres qui possèdent des esclaves, les libres en quelque sorte, les hommes, etc., etc., au détriment des femmes, des esclaves, et puis à l'époque moderne, des populations colonisées ou racisées. Mais non, l'anthropocentrisme, clairement, ça me paraît assez évident, a des racines historiques et intellectuelles beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes que la simple modernité occidentale et capitaliste.
Alors, vous en venez dans un long chapitre au transhumanisme. Ce transhumanisme qui serait un jusqu'au boutisme, en tout cas au moins du projet moderne, tel qu'on l'entend actuellement. Et alors, je voudrais surtout vous interroger sur les conclusions que vous effectuez dans cette partie. Et c'est cette conclusion qui va nous permettre de développer la suite de l'entretien, parce que c'est là où j'ai l'impression qu'il y a véritablement tout l'enjeu dans votre livre. Je vous lis. Dans les conclusions de son livre « Feminism and the Mastery of Nature », Val Plumwood soutient qu'il existe dans tout processus de colonisation, qu'il s'exerce sur d'autres groupes humains ou sur le monde autre qu'humain, quatre étapes principales. Étape 1, la justification et la préparation. Étape 2, l'invasion et l'annexion. Étape 3, l'appropriation qui implique l'instrumentalisation de l'autre. Étape 4, enfin, l'incorporation de l'autre qui implique son assimilation et même, pour reprendre le terme extrêmement puissant employé par Plumwood, sa dévoration. Jusqu'à une date récente, l'on pourrait dire que la modernité technocapitaliste s'en est globalement tenue dans son rapport à la nature au stade 3.
Alors, je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, mais peut-être juste avant de répondre à cette question, revenir brièvement sur un moment de transition qui est quand même important dans mon livre, qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, qui est celui du basculement à l'âge moderne que j'identifie, en fait, de cette structure anthropocentrique et de ce lien entre déni de la mort et déni de la terre dont on a parlé chez Descartes et chez Bacon, où en fait, c'est important parce que c'est le moment où moi, j'ai l'impression qu'on assiste à une sécularisation de ce double déni et ce double alliance. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge moderne, la volonté d'abolir à la mort et d'échapper à la terre se traduisait par des stratégies religieuses et métaphysiques. C'est-à-dire que, en fait, on ne cherchait pas forcément à transformer la terre pour en faire un lieu où on ne meurt plus. On cherchait en fait surtout à s'en échapper en rejoignant un au-delà postulé. Ce qui va changer à l'âge moderne chez Descartes et encore plus sous la plume de Bacon, c'est qu'en fait cette ambition elle va se séculariser, c'est-à-dire qu'en fait on va continuer à vouloir échapper à la mort et à avoir une vision très négative de la terre, mais on va le faire petit à petit en postulant qu'en fait c'est ici-bas même, sur cette terre tant et tant méprisée et tant dévalorisée, qu'il faut lutter contre la mort. C'est-à-dire qu'on va passer d'une stratégie métaphysique, stratégie religieuse et métaphysique, à une stratégie technoscientifique de combat contre la mort. Et c'est cette matrice-là, on va dire, qui est l'ancêtre du transhumanisme dont on parle désormais. Alors pour répondre ensuite à cette dernière question, alors je ne sais pas exactement comment répondre à cette question, à vrai dire, parce que le passage en lui-même est assez évocateur, mais effectivement, il y a cette idée chez Plumwood que le dernier stade en fait, d'une logique de colonisation propre au dualisme est le stade de la dévoration, c'est-à-dire le stade où on ne va pas seulement instrumentaliser l'autre pour parvenir à ses fins, tout en continuant malgré tout à jouer de son agentivité, si je puis dire, mais le stade où on va chercher vraiment à absorber l'autre dans sa totalité, à le soumettre intégralement à la gentilité du soi humain dominant, l'absorber. Le philosophe Frédéric Nera parle de cosmophagie pour évoquer en fait ce stade ultime du capitalisme contemporain. Et moi, je rajoute en fait l'anthropophagie pour désigner sa dimension transhumaniste. La dimension cosmophage, on pourrait dire, elle est par exemple dans le projet de la géo-ingénierie ou de créer des robots abeilles pour polliniser les arbres faute de pouvoir encore compter sur les oiseaux. C'est-à-dire qu'on a, vraiment ce moment où l'agentivité de la nature répondant de moins en moins à nos désirs en raison des dérèglements que nous lui avons imposés, où l'agentivité de la nature étant de moins en moins instrumentalisable de façon, on va dire, docile, on se pose la question et on se demande s'il ne faudrait pas tout simplement à supprimer cette agentivité en en prenant entièrement le contrôle, en la pilotant entièrement, voire tout simplement en l'absorbant et en la fondant dans le soi devenu tout puissant. Et donc dans la géo-ingénierie par exemple, ou dans le cas des robots abeilles, c'est évident. C'est-à-dire que là, on est face à l'idée que des créations humaines, que des créations technoscientifiques entièrement contrôlables, entièrement maîtrisables, entièrement soumises à la gentilité humaine vont pouvoir prendre le relais de processus naturels sur lesquels on avait pu jusqu'alors compter, mais qui sont en train de devenir trop appauvris ou trop capricieux.
Parce que vous, on va s'attarder un peu sur le stade 4. Ce stade 4 ne serait pas une réconciliation entre l'humanité et la Terre, ce serait plutôt un dépassement anaturaliste du dualisme. C'est là où on en arrive à ce stade 4, et l'enjeu de ce stade 4 peut provoquer soit une surcatastrophe climatique et écologique, soit au contraire un meilleur traitement.
Alors là, effectivement, il faut que je reparle un petit peu de Valplemoud, parce que c'est quelque chose qui est très lié à sa pensée. Si vous voulez, Valplemoud, elle va, comme je l'ai dit au début de l'entretien, identifier dans l'histoire des idées occidentales une logique dualiste. Bon, elle n'est pas la seule à le faire, et la critique du dualisme, comme je disais, est devenue un lieu commun. Mais, en général, le dualisme est mal compris. Par beaucoup de personnes, le dualisme est compris comme le fait d'établir une distinction entre des sphères, de dire « il y a du corps et il y a de l'âme, il y a de la terre et il y a du ciel ». Il y a de l'émotion et de la raison. Et à partir du moment où le dualisme est compris par beaucoup de personnes, y compris par beaucoup de théoriciens, comme le simple fait de distinguer des sphères, eh bien, la critique du dualisme va être comprise comme le fait de revenir à une situation d'indifférenciation entre les sphères. Sauf que Valplemoud nous dit, attention, danger. En réalité, le dualisme, ce n'est pas le fait de distinguer des sphères, car toutes les sociétés humaines que l'on connaisse, et pour des raisons évolutives, cognitives, en fait, font des distinctions, opère des distinctions dans le monde entre différents pôles, entre différentes sphères, entre différentes entités. Elle nous dit, la vraie caractéristique du dualisme, c'est d'établir une différenciation hiérarchique entre ces sphères, où l'une d'entre elles va devenir prééminente et entraîner la dévalorisation et l'invisibilisation de l'autre, ainsi que le déni de la dépendance que nous avons à son égard. Ça, c'est le dualisme. Mais si on se contente de comprendre le dualisme comme simple différenciation non hiérarchique des sphères, alors on court le danger de penser le dépassement du dualisme comme indifférenciation. Or, cette indifférenciation, eh bien, paradoxalement, elle peut jouer le jeu de la sphère dominante parce que elle peut la conduire à pousser jusqu'au bout sa logique de domination, c'est-à-dire non plus même à reconnaître l'existence d'une sphère autre, fût-elle dévalorisée, invisibilisée et méprisée, mais à tout simplement la nier dans son existence même, l'absorber, la dévorer, comme le dit Plumwood. Et en fait, ce à quoi on assiste aujourd'hui d'une certaine façon dans l'ontologie sous-jacente du capitalisme, qui devient de plus en plus une ontologie de l'indifférenciation, eh bien, c'est cette absorption de l'autre non humain dans le soi tout-puissant et hypertrophié du maître. Et non pas, comme le voudrait un véritable dépassement du dualisme, eh bien, la reconnaissance de l'autre comme autre, dans son autonomie, dans son agentivité propre. Ça serait ça, en fait, selon Plumwood, un véritable dépassement du dualisme. Ça serait pas nier les différences qui existent entre le soi et l'autre, entre le corps et l'âme, si on veut parler comme ça, ou entre la raison et l'émotion. Ça serait simplement reconnaître qu'elles sont sur un pied d'égalité, qu'elles ne sont pas hiérarchisables. Il ne faut pas invisibiliser ou mépriser l'une de ces sphères. Qu'il faut essayer de créer entre elles une harmonie, une relation, mais en aucun cas les fondre l'une dans l'autre, ce qui ouvre la porte aux entreprises d'absorption et de cosmophagie et d'anthropophagie auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui.
Oui, c'est donc toujours ce problème de l'hégémonie dans ce dualisme ou dans cette séparation. C'est que je pense à la séparation nature-culture, par exemple, qui a beaucoup travaillé les sciences humaines ces 20 dernières années. C'est toujours cette question de l'hégémonie, en fait. Et c'est peut-être aussi la critique de Bruno Latour ou d'Isabelle Sanger sur la science avec un grand S, qui est ce problème de l'hégémonie scientifique. À partir du moment où il y a une hégémonie, ça pose un grand nombre de problèmes, notamment si on en arrive à ce stade 4 que vous avez très bien expliqué en passant par Valplemoud. J'aimerais qu'on en arrive à votre question finale, puisque votre livre s'intitule « La terre, les corps, la mort » et c'est sur la condition terrestre. Votre question finale, c'est « Comment habiter la mort ?» Et l'historien Jérôme Bachet vous est très utile pour explorer cette voie-là. Comment habiter la mort ?
Alors, vaste question que se posent les êtres humains depuis plusieurs millénaires, de comment effectivement habiter la mort, ou comment, peut-être pour le dire autrement, comment cohabiter avec la mort, comment faire en sorte que cette terre, ce monde terrestre dans lequel nous vivons, puisse être considéré comme un foyer alors qu'il est le lieu où nous allons mourir et voir mourir les personnes proches. Alors c'est effectivement la question à laquelle j'essaie de répondre de façon prudente et modeste dans la troisième partie de mon livre, car évidemment il n'y a pas un seul penseur qui pourrait répondre à cette question de façon définitive. Moi je me pose cette question et je commence à y répondre en m'inspirant une nouvelle fois de Val Plumwood, mais pas seulement, on va dire, d'un certain nombre de penseurs et puis même de personnes en général, tout simplement aujourd'hui, qui se disent mais comment écologiser en fait notre conception de la mort, comment arriver à concilier notre condition terrestre et notre condition mortelle, encore une fois. Et la réponse que ces personnes apportent en général à cette question, eh bien, elle est assez évidente, j'ai envie de dire, elle est assez intuitive, c'est la suivante, c'est-à-dire cesser, comme nous l'avons fait en général tout au long de la modernité, de considérer que nous sommes des purs individus, de considérer que nous sommes des êtres en quelque sorte auto-fondés ou auto-déterminés, et que nous avons donc une existence absolue en tant qu'individus, ce qui évidemment est terrible face à la mort, parce que si nous sommes des individus absolus, eh bien, lorsque déliés de toute appartenance, déliés de tout lien, déliés de toute inscription dans des cycles qui nous dépassent, et bien évidemment, lorsque nous mourons, et bien la mort à laquelle nous sommes confrontés est tout aussi absolue, puisque rien ne peut survivre à ce tout qui s'était conçu lui-même comme une totalité close. Donc évidemment, c'est une perspective très angoissante à laquelle les modernes, de ce point de vue-là, sont confrontés. Face à cette perspective angoissante, et bien évidemment, la tentation est forte, et c'est ce que fait Plumwood et c'est ce que font d'autres personnes, de dire, eh bien, il faut nous repenser comme des êtres non pas seulement individuels, non pas seulement déliés, mais il faut nous repenser comme des êtres dont la vie s'inscrit dans des cycles écologiques, dans des cycles biosphériques, dont la vie se nourrit de ces cycles, mais la nourrit, les nourrit et doit les nourrir en retour. Il nous faut nous penser en gros comme des membres à part entière de communautés biotiques, de communautés biosphériques, de communautés terrestres, qui sont des communautés, pour le dire comme Plumwood, ancestrales. Et à partir du moment où nous reconnaissons cette appartenance, qui est un peu un des enjeux en fait, hein, quand même, depuis des décennies maintenant de la pensée écologiste, reconnaître notre inscription dans des réseaux d'interdépendance, dans des écologies relationnelles, eh bien la perspective de la mort devient, selon Val Plumwood et selon ses penseurs, moins angoissante. Puisque, certes, en tant qu'individu, nous allons mourir, mais comme nous sommes composés par des éléments qui ne nous appartiennent pas totalement et qui font partie de ces cycles dont nous faisons partie, eh bien ceux-ci, qu'ils soient somatiques ou animiques, vont, au moment de notre mort, se décomposer, se disperser. Pourquoi pas, par exemple, dans les formes nouvelles, d'ailleurs, de funérailles qu'on envisage de plus en plus, se composter dans le sol, s'humifier en quelque sorte à travers des nouvelles formes de funérailles, des nouvelles formes de processus de traitement des corps après la mort. Et ce faisant, eh bien, nous allons en quelque sorte nourrir ces cycles, nourrir ces relations qui nous ont nourris, et puis quelque part obtenir une consolation à travers cette perspective d'une réconciliation, d'un retour en quelque sorte à la communauté ancestrale des écosystèmes et de la Terre au moment de la mort.
Ce que vous venez de nous dire, Pierre Madelin, en guise de conclusion, c'est aller jusqu'au bout de votre proposition d'une ontologie et d'une anthropologie relationnelle.
Oui, effectivement, sauf que moi, elle ne satisfait pas totalement cette solution. Elle est effectivement élégante, mais elle ne me satisfait pas totalement, et toute la troisième partie de mon livre est destinée à discuter en quelque sorte cette option consolatrice. Je dis oui, effectivement, il y a une part de vérité là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, une grande partie de la modernité philosophique a conçu l'être humain sous des formes très trop excessivement individualisantes et atomisantes, ce qui crée une angoisse très forte par rapport à la mort. Et effectivement, oui, il faut nous repenser dans un réseau d'interdépendance et de relations, et repenser notre mort aussi là-dedans. Et effectivement, oui, il y a une dimension de consolation dans cette pensée. Mais ce n'est pas suffisant, parce que ce que moi j'identifie comme la matrice anthropologique ultime de l'angoisse de la mort dans les sociétés humaines, c'est l'effacement de l'individualité. La crainte, l'angoisse, la tristesse, le désespoir face au fait que cette personne singulière, non réductible à la communauté sociale ou écologique à laquelle elle appartient, s'efface. Et donc je ne pense pas qu'on puisse surmonter le déni de la mort en niant ce qui en est la matrice anthropologique ultime, c'est-à-dire que malgré tout, quand bien même il appartient à des communautés qui le transcendent, l'individu existe et il est irréductible à ces communautés. Et sa mort ne sera jamais... Il ne sera jamais possible de se consoler entièrement de sa mort en le renvoyant à des totalités ou à des communautés d'appartenance. Il y a une irréductibilité de l'individu, et cette irréductibilité de l'individu, c'est ce qui fait l'irréductibilité de l'angoisse face à la mort. Et je ne sais pas si je pourrais vous lire un petit passage du livre.
Prenez le livre en main.
En fait, c'est un court passage qui n'est pas de moi, qui est du philosophe allemand Franz Rosenzweig, qui résume assez bien, je pense, cette tension qui est dans la troisième partie de mon livre entre une dimension, on va dire, existentialiste, où l'angoisse de la mort demeure, et une dimension écologique, où elle peut obtenir une certaine consolation dans la reconnaissance des communautés d'appartenance. Donc ce passage de Franz Rosenzweig, dans son livre le plus célèbre, qui est L'étoile de la rédemption, le voici. Et dans sa terminologie même, hein, il renvoie vraiment au cœur de ma réflexion dans ce livre. Il dit « Il ne faut pas que l'homme rejette de soi l'angoisse du terrestre. Il doit subsister dans l'angoisse de la mort. L'angoisse du terrestre ne doit lui être retirée qu'avec le terrestre lui-même. Mais aussi longtemps qu'il vit sur terre, il doit aussi demeurer dans l'angoisse du terrestre. Et la philosophie le dupe sur ce doigt quand elle tisse autour du terrestre la brume bleue de son idée du tout. En effet, il est bien évident qu'un tout ne saurait mourir et que dans le tout, rien ne mourrait. Seul le singulier peut mourir et tout ce qui est mortel est solitaire. »
Merci beaucoup, Pierre Madelin. Merci.